Alors, je retiens au fond votre accord sur la proposition 5, vos réserves sur la non, votre accord sur la proposition 4, c'est-à-dire définir les objectifs communs. Vous êtes, pensez que c'est en effet utile, surtout si on utilise les mécanismes, le modèle un peu de l'OCDE et des points de contact nationaux, ce qui donne plus d'effectivité et on peut espérer du coup plus d'efficacité.
Et de sérieux.
Le mécanisme, le modèle OCDE, le modèle des points de contact nationaux. En revanche, sur la proposition 5 de réglementation, disons que vous êtes réservé. Et vous
oui,
le liez,
je suis réservé parce que je ne vois pas comment elle s'applique effectivement aux conditions de production. Autant je vois bien comment elle s'applique aux produits. Autant, et comment elle s'applique de manière à rendre les choses équitables sur les produits. Et qu'en plus, sur les produits, elle peut s'appliquer à des portions d'espace. Il n'est pas nécessaire d'avoir un accord global. L'Europe peut décider que chez elle, les voitures pollueront moins et toutes celles qui seront vendues en Europe pollueront moins. Autant je ne vois pas, si l'accord n'est pas universel, comment l'appliquer aussi aux conditions de production, sans inéquité.
Vous le reliez au caractère universel ou pas de l'accord?
Oui.
Alors peut-être qu'il y a une solution de transaction qui serait de parler d'un accord universalisable avec un échéancier, quelque chose de ce genre.
Si on a un accord universel, tout est réglé. Universel et contraignant. Il sera différencié et tout sera réglé. Tout ce que je dis s'applique au cas où nous n'aurions pas d'accord universel. D'accord universel, entendons-nous bien, ce n'est pas forcément les 200 pays de l'ONU. Ça peut être les pays qui cumulent à eux seuls les 80% des émissions, par exemple. Si on avait un accord différencié, englobant l'ensemble de ces pays et donc de leur population et de leurs acteurs, je pense qu'on aurait réglé le problème. Je crains qu'on ne l'ait pas. Et que du coup, si on ne l'a pas, je vois déjà... certains dire si on ne l'a pas, il vaut mieux rien qu'un truc partiel. Et je l'ai entendu souvent. Un accord global ou rien. Comme je crains qu'on n'ait pas d'accord global, je crains clairement qu'on n'ait rien. D'où l'idée d'un plan B, ou tout au moins d'un second best, qui permette néanmoins d'agir et qui ait un effet d'entraînement progressif pour progressivement en entraîner d'autres.
C'est la raison pour laquelle on propose un accord sur la base de responsabilités différenciées. Donc c'est un universel qui n'est pas un universel uniforme.
Non. Non, mais il faut qu'il soit quand même universel.
Un universel différencié, oui, mais avec une partie commune, un noyau dur commun, et ensuite des critères de différenciation, c'est-à-dire pas différencié en laissant à chaque État l'appréciation des critères, mais des critères communs pour permettre la différenciation. C'est un peu une formule complexe, mais je crois qu'elle est possible.
En faisant l'hypothèse, bien évidemment, pour que, comme il y aura eu accord, il y aura une forme d'équité entre les responsabilités du passé, les capacités du présent, les attentes de l'avenir, et donc quelque chose qui puisse être acceptable par l'ensemble des parties à l'accord. Même s'il est bien sûr différencié. Et je pense que les industriels européens peuvent comprendre que les industriels chinois ne payent pas la même chose qu'eux, même si aujourd'hui ce sont leurs compétiteurs pratiquement à armes égales. Mais bien sûr, les industriels européens, je pense, chercheront à s'opposer à un accord qui leur serait imposé à eux sans que leurs concurrents chinois ou indiens ne rentrent dans un cadre globalement satisfaisant pour le monde et qui progressivement aussi puisse mitiger l'écart.
Oui, je voulais aller dans le sens qui est suggéré par Monsieur Frérot pour des raisons qui tiennent aussi à des considérations juridiques, c'est-à-dire nous sommes tous d'accord pour considérer que le cadre normal des États, si je mets de côté ceux qui ont une dimension impériale, n'est plus le cadre pertinent pour aborder ce type de questions. Mais est-ce que la seule alternative, ce sont des accords mondiaux? Là, on est renvoyé à la question d'une unanimité mondiale qui condamne d'entrée de jeu presque à l'échec, si ce n'est à ce moment-là sur des bonnes paroles, des exercices de rhétorique politique. qui deviennent de plus en plus le fond même de l'action politique. Donc, l'idée d'une déterritorialisation complète des lois qui va de pair avec l'idée de la liquidité des marchés ne répond pas à l'expérience longue du droit et des institutions. Et donc, la reterritorialisation suppose en effet, me semble-t-il, la possibilité d'avoir des dispositifs à taille continentale. C'est vrai aussi dans le domaine social, par exemple, où le problème se pose dans des termes un peu voisins. Ce que j'observe dans votre proposition, c'est que ça supposerait du côté de l'OMC que l'on admette la prise en considération du process et pas seulement du produit, ce qui supposerait là un changement de perspective, parce que c'est simplement sur de petits aspects qu'actuellement, sur la base de l'article 20 de l'accord du GATT, que ceci a été possible. Donc, vouloir à toute force mêler les deux considérations dans un plan, je ne suis pas sûr que si on devait faire des recommandations, on peut rêver d'un accord global et puis avoir l'idée qu'à défaut, subsidiairement, il peut y avoir quelque chose qui est devenu la norme en matière de droit international, en matière militaire, qui est la coalition. Et depuis 20 ans, le vocabulaire de la coalition s'est substitué progressivement à celui des organisations. Donc l'impuissance des organisations pour régler des problèmes a fait face à des coalitions qui, quelquefois, n'ont fait qu'aggraver les problèmes, si je pense à la Coalition of the Willings de M. Bush fils. Mais enfin, c'est très frappant de voir ce déplacement. Et donc on peut imaginer là qu'il peut y avoir des coalitions volontaires sur des objectifs positifs qui permettraient d'éviter un blocage général. Donc, en ce qui me concerne, je pense que du point de vue juridique, c'était particulièrement pertinent.
Surtout que lors de la deuxième table ronde, vous allez aborder sans doute les 6 autres propositions. L'une d'entre elles, la 10, évoque clairement la nécessité d'embarquer l'OMC dans la réflexion et de faire bouger l'OMC sur ses dogmes. J'évoquais un droit de douane, on pourrait imaginer une TVA carbone. Enfin, dès lors qu'il n'y a pas d'accord équitable universel, même différencié, le problème du climat et ses conséquences semblent plus graves que l'orthodoxie des théories économiques, qui certes sont bien utiles pour développer l'économie, mais qui doivent passer au second rang lorsqu'il s'agit de l'avenir de la planète. Je pense que beaucoup de choses pourraient se jouer à ce niveau-là de l'OMC.
Oui, vas-y. Non, moi j'avais un commentaire aussi sur ces aspects. J'espère qu'on aura un accord assez large, alors peut-être pas universel, mais auquel beaucoup de pays adhéreront. Il y aura un accord de Paris, je pense. Ma crainte, c'est que s'il est contraignant, il ne sera pas assez ambitieux. Ça, c'est très clair. S'il est contraignant, il n'aura pas d'ambition. S'il n'a pas d'ambition, eh bien, on ira au-delà de 2 degrés à long terme. C'est très clair. Donc, la question est posée, y compris le jury, c'est est-ce qu'on doit vraiment être contraignant ou est-ce qu'au contraire, ne doit-on pas inciter, les pays à mettre le maximum sur la table en leur faisant confiance? Parce que la confiance, maintenant, elle est vraiment les pays. Tous les pays, s'ils prennent des engagements, sont vraiment sous le regard du monde entier. On n'est plus il y a 20 ans. Ça a complètement changé. Donc, ne serait-ce que le regard qu'on porte sur un pays, ça sera aussi sa capacité à tenir ses engagements. Donc ce regard est peut-être aussi fort que le juridisme, je veux dire par là. Et c'est donc ça qu'on doit peser maintenant. Et si on veut être trop contraignant au sens juridique du terme, je crains qu'il n'y ait pas d'ambition. C'est un peu ça, pour moi, qui m'intéresse ici. Autrement, j'aurais voulu poser une question à Antoine Frérot. Bon, vous êtes exprimé, donc le MEDEF a très clairement, lors des journées de mi-mai, a fait un manifeste dans lequel le MEDEF, appelle à donner un prix au carbone, en particulier. Alors, je ne sais pas si, j'imagine que Veolia l'a signé, c'est pas le problème, mais ce que vous avez proposé, c'est plus personnel, comme vous l'avez dit, ou c'est largement partagé au niveau français, par exemple, des entreprises? C'est une question.
Alors, Veolia a signé la proposition à FMEDEF, mais elle me paraît largement insuffisante. Donc, ce que je voulais proposer là n'est pas partagé par l'industrie française. Ce qui est partagé, c'est l'idée d'un coût du carbone robuste et prévisible. Mais quand on demande qu'est-ce que ça veut dire robuste, la réponse, c'est ça ne peut pas être le même partout, donc on ne peut pas répondre. Nous voilà bien. Bon. Et quand on demande quelle forme, c'est la forme du marché, et du marché mondial ou rien qui revient. Donc c'est rien, parce qu'il n'y aura pas de marché mondial. Donc je crains que ces prises de position morales, satisfaisantes, ne soient pas suffisamment suivies de modalités techniques pour entraîner une véritable action.
Juste un mot pour vous remercier de vos remarques qui sont vraiment précieuses pour avancer dans ce travail de réflexion. Une petite remarque sur la question de la réglementation juridique. Je comprends tout à fait vos réserves et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'abandonner un marché. Vous avez bien expliqué les effets pervers que la régulation par le marché a eu sur le prix du carbone, en bloquant donc tous les investissements pour la décarbonisation de l'énergie. Et entre l'alternative, et je suis encore d'accord avec vous sur la nécessité de redéterritorialiser le contrôle du prix du carbone ou des réglementations au sens plus large du prix du carbone, parce que la création d'un marché global comme Kyoto envisagé ne peut être que le produit, comme le professeur Guénéry a dit, d'une décision d'un dictateur mondial. Et heureusement, on n'en est pas là. Dans le cadre de d'une réglementation pas nationale, mais plutôt régionale, je vois je pense qu'entre une taxe carbone et une réglementation juridique, il y a quand même certaines différences. Et je pense notamment, en ce qui concerne l'Europe, aux problèmes institutionnels qu'il y a derrière, parce que établir une taxe à l'échelle européenne demande l'unanimité. C'est une des raisons qui a conduit l'Union européenne à faire le choix d'un marché. Et ça serait très difficile aujourd'hui d'avoir cette unanimité, alors qu'une réglementation juridique pourrait éventuellement permettre de contourner ce problème. À cet égard, les États-Unis vont dans cette direction. Mais là aussi, je vous rejoins, dans des secteurs qui ne sont pas ouverts à la concurrence, notamment le secteur de la production d'électricité. Et donc, le problème de l'équité que vous avez à juste titre soulevé ne se pose pas dans un domaine où ce problème ne se pose pas. Donc, on pourrait éventuellement imaginer une combinaison entre réglementation juridique ou régulation économique par le biais d'une taxe carbone, mais avec les problèmes institutionnels que je viens d'évoquer, qui devraient nécessairement se combiner avec une taxe aux frontières. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Taxe qui serait très difficile à faire passer auprès de l'OMC, et on en parlera plus tard. J'ai une rapide question pour tous les deux. On a évoqué souvent le manque d'un plan B, ou bien certains jalons que vous avez proposés pour contourner ou limiter ou endiguer les effets néfastes d'un échec de Paris. Et je me demandais si, de vos respectifs points de vue, vous prenez au sérieux justement les pratiques de géo-ingénierie. Les pratiques de géo-ingénierie. Vous les avez en partie évoquées. La géo-ingénierie vise, ne s'attaque pas aux causes des émissions, mais limite les effets. Donc à travers une surenchère technologique qui permettrait, dans des scénarios qui des fois sont un peu effrayants, de récupérer la CO2 produite, ou bien intervenir sur ces effets, par exemple sur les océans, etc. Donc je me demandais quel était votre point de vue là-dessus.
Alors le point de vue sur la géo-ingénierie, il est principalement éthique. Par exemple, si on évoque la possibilité qui est évoquée d'introduire disons, d'introduire des aérosols dans la stratosphère de façon à jouer les volcanologues. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un volcan, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degrés pendant quelques années. Donc c'est l'idée d'injecter d'énormes quantités d'aérosols dans la stratosphère pour contrecarrer l'effet du CO2. Alors il peut y avoir, le premier point, c'est qu'il pourrait y avoir des effets secondaires sur les précipitations qui ne sont pas maîtrisés, sur le cycle de l'ozone également. Mais le point principal, c'est que c'est pour une raison. Alors, si on veut contrecarrer l'augmentation le réchauffement qui est lié à l'augmentation de l'effet de serre, il faut augmenter la dose continuellement. Il faut de plus en plus mettre d'aérosols dans la stratosphère, même si ça marchait. Il y a des questions là-dessus. Et puis, si pour une raison quelconque, géopolitique ou technique, eh bien, on était obligé d'arrêter dans 30, 40, 50 ans. Eh bien, au lieu d'avoir un réchauffement sur 50 ans entre 1 et 2 degrés, de l'ordre du degré pendant les 50 prochaines années, par exemple, eh bien, en 50 ans, eh bien, on l'aurait. C'est pour une raison quelconque on l'aurait en 5 ans, et ça sera encore plus terrible. Et je pense que du point de vue éthique, c'est laissé à nos enfants, nos petits-enfants, une vraie bombe à retardement. Donc moi, je suis vraiment opposé à la géo-ingénierie, principalement pour cette raison-là, pour une raison éthique. Même si ça marche, je pense qu'on ne doit pas le faire.
Deux commentaires à ce que vous avez dit, monsieur. Vous avez évoqué, d'ailleurs, dans vos propos liminaires tout à l'heure, le bon exemple des États-Unis sur la régulation juridique. Vous êtes bon prince avec les Américains quand même, parce que cette maigre régulation juridique qui s'applique à leur centrale au charbon, et encore, il faut passer derrière le Parlement, et s'il s'applique aux centrales au charbon, c'est que ça ne leur coûte pas grand-chose, puisque aujourd'hui, le gaz y supplée largement. Mais il n'est pas question, bien évidemment, d'appliquer les mêmes règles à la production et à l'utilisation de gaz. Et pour bien connaître les régulations environnementales américaines et notamment le rôle de l'EPA et du poids de l'EPA qui a servi pour nous, pour les gens de ma génération, comme modèle pendant des décennies, il faut bien considérer que l'EPA aujourd'hui aux États-Unis est totalement démonétisé et que ce n'est pas des États-Unis qui me semble que nous trouverons les meilleures régulations et les meilleures régulations juridiques en matière d'environnement. Bon. Il y en a d'autres. Et notamment, à la place de la régulation économique, la régulation juridique. D'ailleurs, votre document évoque ce qui s'est passé en Europe sur les automobiles, qui me paraît un meilleur exemple. Mais je mets en garde sur l'exemple américain, car aujourd'hui, très honnêtement, la législation américaine sur l'environnement a été démantibulée depuis 30 ans. Et on ne voit pas vraiment de traces où elle se renforce réellement. Même si le président Obama a vraisemblablement cette volonté, il n'en a aujourd'hui pas suffisamment le pouvoir. Sur l'unanimité en Europe pour ma taxe aux frontières, vous avez raison, c'est le bas qui blesse. Il semblerait que des juristes travaillent, et je vous livre la question parce que je n'ai pas la réponse, à l'idée que si c'est un marché avec un tunnel, avec un plancher et un plafond, et ma redevance pourrait être le plancher du tunnel du prix du marché de carbone, on pourrait peut-être s'abstraire de l'unanimité des 28 pays de l'Union. Et je sais que des juristes travaillent sur cette idée. Alors, on peut peut-être combiner un marché pincé qui oblige à un coût minimum du carbone, et on retrouverait à ce moment-là le même effet, me semble-t-il. Et puis, sur votre dernier point, je ne connais pas bien ces technologies que M. Jouzel évoquait, sauf peut-être celle de la capture et du stockage du CO2. Dont je crois qu'aujourd'hui, il commence à être correctement maîtrisé. C'est-à-dire que ce carbone capturé, enfin ce CO2 capturé, sous pression rendue en phase pâteuse, semble suffisamment stable pour être stocké dans des cavités, de là où par exemple on a extrait d'autres hydrocarbures, charbon ou pétrole, sans qu'il semble vouloir s'échapper en tous les cas. Le coût de cette capture et de ce stockage du CO2 lorsqu'on l'applique à des usines de production d'électricité augmente le coût de la production d'électricité de 40%. Ça peut paraître beaucoup, ça reste aujourd'hui inférieur à l'utilisation de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne. Et ça peut être, au moins pendant un certain temps, le temps de trouver une alternative à ces productions d'énergie émettrices, une solution que de le capturer et de le stocker. Il est contesté, mais il semblerait que les expériences anglaises, canadiennes maintenant à grande échelle, américaines aussi, montrent que dans un certain nombre de contextes, en tous les cas, ça fonctionne bien. Et là, on ne prend pas le risque éthique que M. Jouzel évoquait.
Ça, ça fait partie des solutions alors, qu'on peut discuter, mais c'est vrai que ça ne rentre pas trop dans le domaine de la géo-ingénierie. C'est une solution qui est quand même... Bon, qui pose aussi ses problèmes, comme toutes les solutions, mais qui est envisagée sérieusement et qui doit être envisagée, c'est clair.
Je vous rassure, pour le droit américain, nous avons eu hier une présentation par le juge Fletcher qui est terminée sur une note plutôt pessimiste. Il voudra peut-être intervenir tout à l'heure dans le débat. Mais avant de lui donner la parole dans le débat général, nous allons entendre un autre juriste américain, Yann Amman, qui va réagir sur ce que vous avez dit des uns et des autres.